Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bon dimanche. Il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui, et comme chaque dimanche, nous aurons de l'actualité, nous aurons de la culture et nous parlerons également de notre communauté, la communauté francophone en Australie. Mais pour débuter cette émission, eh bien passons à notre personnage de la semaine, l'actualité vue par une des personnes qui a marqué cette semaine.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Alors vous vous en doutez, cette semaine nous allons rendre hommage au pape François dans notre personnage de la semaine, décédé ce lundi à l'âge de 88 ans. Il était réformiste au franc-parler notoire, il a marqué son pontificat par son engagement envers les plus vulnérables. On retrouve François Vantôme pour nous éclairer sur son parcours, ses réformes et son héritage.
Né le 17 décembre 1936 dans un quartier populaire de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio était le fils d'Italiens émigrés en Argentine et l'aîné d'une fratrie de 5 enfants. C'est à l'âge de 17 ans qu'il décide de renoncer à une vie laïque pour embrasser la vocation religieuse. À 21 ans, une grave pneumonie oblige l'ablation partielle de son poumon droit qui le fragilisera toute sa vie. Il sera ordonné prêtre en 1969. Ce prêtre proche des pauvres va rapidement monter dans la hiérarchie de l'Église. Il est devenu archevêque de Buenos Aires en 1997. Fidèle à l'esprit d'humilité des jésuites, il refuse alors d'habiter dans la résidence des archevêques, préférant s'installer dans un petit appartement situé près de la cathédrale où il officie. Le 13 mars 2013, après que le pape Benoît XVI annonce sa renonciation à la fonction papale, il est élu 266e pape de l'Église catholique sous le nom de François, en mémoire de François d'Assise. Il est aussi le premier pape jésuite et le premier pontife non européen issu du continent américain.
Alors lorsque Jorge Bergoglio est élu pape, il change immédiatement la donne avec son style peu conventionnel.
Il est en effet pratiquement inconnu en dehors de son pays et il n'a jamais occupé de poste à la curie, ce qui lui permet d'aborder son rôle avec fraîcheur et authenticité. Amateur de football et de tango, il parvient à créer une connexion exceptionnelle avec les fidèles. Contrairement à son prédécesseur Benoît XVI, qui était plus réservé, François incarne une papauté accessible et chaleureuse. Il se rend souvent sur le terrain lors des visites dans les paroisses, comme pour établir un contact direct avec les gens. Son expérience l'a également conduit à se concentrer sur la nécessité de rapprocher l'Église des réalités humaines. La papauté de François est marquée par une volonté de réforme. Son premier document papal, l'encyclique Lumen Fidei, traite de la foi et de sa signification dans le monde moderne. Mais c'est l'encyclique Laudato Si qui a vraiment attiré l'attention internationale. Publiée en 2015, elle aborde les questions environnementales, la crise climatique et l'importance de la protection de notre maison commune. Notre planète est un don et il est de notre responsabilité collective de la préserver pour les générations futures.
Les engagements du pape François envers les plus démunis constituent l'un des fondements de son action.
C'est exact. À son élection, il proclame son désir de voir une église pauvre pour les pauvres. D'emblée, il se positionne comme un critique du néolibéralisme et met en lumière les injustices sociales qui frappent les migrants et les réfugiés. Au cours de ses 47 voyages à l'étranger, Jorge Bergoglio a donné la priorité aux périphéries, préférant les pays marginalisés en proie aux conflits ou à la pauvreté aux bastions catholiques occidentaux. Son message est clair, il appelle à accueillir sans distinction ceux qui fuient la guerre et la pauvreté. Il n'a pas hésité à s'adresser violemment aux dirigeants politiques sur leur politique migratoire. Ce regard contrasté envers les gouvernements populistes et les attitudes anti-immigration a souvent créé des tensions, mais il a toujours défendu la dignité humaine.
Sur le plan des réformes, son pontificat est marqué par des choix audacieux.
François a voulu décentraliser le fonctionnement de l'Église et a réorganisé la curie romaine pour y introduire plus de laïcs et de femmes. Bien qu'il ait élargi les droits des divorcés remariés et des fidèles LGBT+, en permettant par exemple les bénédictions des couples de même sexe, fin 2023, ses positions ont suscité des oppositions virulentes. Les critiques provenant de certains cercles conservateurs, notamment en Afrique et aux États-Unis, ont été vives et accusatrices. Parallèlement, François a œuvré pour assainir les finances du Vatican, touchées par de nombreux scandales, avec la création d'un secrétariat pour l'économie en 2014 et des études de mise au clair des finances. Il a réussi à fermer des comptes douteux et à établir des mesures anticorruption. Au-delà de son engagement social, le pape François est également préoccupé par l'avenir de l'Église elle-même. Il a cherché à lutter contre les cléricalismes et les abus au sein de l'Église, appelant à une plus grande transparence et à une réforme des institutions religieuses.
Le décès du pape François marque la fin d'un chapitre important pour l'Église catholique. Son héritage est complexe, oscillant entre admiration et critique.
D'un côté, il a su parler aux plus vulnérables tout en portant des messages qui touchent au cœur des problèmes contemporains, tels que la pauvreté, l'égalité des droits et la justice sociale. De l'autre, il a dû faire face à la résistance de ceux qui voient en lui un écart par rapport à la doctrine traditionnelle. Ses opposants conservateurs sont allés jusqu'à l'accuser d'hérésie pour son ouverture aux divorcés remariés, susceptibles de recevoir la communion à la discrétion des évêques locaux. Ses paroles jugées parfois trop tolérantes envers l'accueil des homosexuels dans l'Église lui ont valu d'autres flèches assassines, tout comme l'ouverture des bénédictions aux couples de même sexe fin 2023. François n'a pourtant pas fondamentalement dérogé à la doctrine traditionnelle. Il avait approuvé une note du Vatican considérant l'homosexualité comme un péché. Il a aussi régulièrement exprimé son horreur de l'avortement, comparant cette pratique au recours à un tueur à gages, et répété qu'une famille se composait d'un père et d'une mère. Il avait aussi fermé la porte aux prêtres mariés et aux femmes diacres, apaisant ainsi l'ire des traditionalistes, mais décevant les progressistes qui attendaient un tournant historique. Alors que le monde lui rend hommage, il est essentiel de se souvenir que le pape François nous a laissé une voie à suivre, celle d'une Église engagée, accessible et profondément humaine. Avec son franc-parler et son sens de la proximité, il a redonné à la papauté un visage moins institutionnel et plus empathique. Il a aussi permis un changement de ton au sein de l'Église en incitant à accueillir les personnes marginalisées et en prônant un dialogue interculturel et interreligieux.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
T'es la meilleure.
Ma meilleure ennemie, la chanson en duo de Stromae et de Pomme en ce dimanche sur Radio SBS. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Now it's time to talk about a story that's been fascinating me for many years, I should say. The story of the little digger. Was he French? Was he not French? How did he arrive in Australia? And in this time of Anzac Day, I've got the great pleasure to talk to Anthony Hill. You're the man that brought this story to life, Anthony. Hi, and welcome to the SBS French program.
My pleasure. Thanks.
This story, like I said, has been just fascinating. It's not just me. Like, if you dig into this story of this little digger, Henri Honoré, it's absolutely just fascinating. Can you summarize what is it all about in a few words?
Yeah, well, he was a little French boy, but he lived somewhere along the French-Belgian border at the time of the Great War broke out in 1914. As the German army was advancing after Mons towards Lille, the villages were being bombed, the British army was in retreat. This little boy was in the street, running with the other people. He thinks he saw his mother lying dead in the garden. He was picked up by a British artillery unit. They went with him to Ypres, where some of the worst fighting took place. Yeah. And he was wounded. He was sent to an orphanage. He kept running away back to the soldiers at the front until he was given to the British Flying Corps, the Royal Air Force, to look after. And with them, he went into Germany at the end of the war at the armistice. And there on Christmas Day in 1918, he wandered into an Australian Air Force Flying Corps group and wanting to share their lunch. It was much better than the Tommies. And he was a very sweet little kid. He's only about 8 or 9. And they adopted him as a mascot, ended up taking him with them when they went back across Germany on the way home into France to Le Havre, and they smuggled him on board the ship across the channel in a sack, an oat sack. Yeah. And he got off, he spent time with them in England, and then when they came back to Australia, they smuggled this little boy back to Australia with them. And an airman called Tim Tovell was the man who particularly looked after him. And when they arrived in Australia, he was allowed to land, and he grew up with Tim's family in Queensland. Until when he was about 14, he came to Melbourne and went to into the Air Force here. He was hoping to become a pilot. He was getting naturalised when, very sadly, in 1928, he bought a motorbike. And on the way home from seeing his girlfriend, had a collision with a taxi driver and was killed.
Just to focus it on Spring Street, so near the Parliament in Melbourne, so people can actually picture it.
Right by the Parliament House. It was actually opposite the Windsor Hotel, but it's just by Parliament House, you know, there. And it was a very sad ending to his story. I've often seen, we don't know really who he is. We have his signature that he wrote when he was a little boy. He wrote Honoré Mem, H-E-M-E-M-E. We couldn't find that surname anywhere. I wondered if Honoré may have been a surname, but I don't know. They tried to find about him from the records when they were coming home. They did spend time in Lille trying to find something. But after the war, you know, records were destroyed. Everything was disarray. They couldn't find him. We still really don't know who he is. So.
Yeah, and something we know, he's buried in Faulkner. So if you're in Melbourne, Faulkner is, 10 minutes drive out of the CBD. Yeah. It's really not far. And this is where he rests in peace.
That's right. He was buried there. They built a very elaborate grave. There's a large public subscription. The story touched people. It was this lovely story of kind of redemption after the First World War. So many soldiers, so many people's sons and husbands and brothers did not come home. And this little boy did. And there was crowds of people to see them when they arrived back in Melbourne. And they raised a vast sum of money when he died, mm-hmm. was killed.
What's interesting is that he came to find a home. A lot of the boys had a home, left, and died in France. But this French soldier just came, lost everything, and found a home in Australia.
That's right. Frankly, we don't know who he is, as I said. I see Digger. They called him Digger, young Digger, or Henri, and they called him Henry. And, of course, when they were coming through France, they were asking for somebody called Henry.
Yeah.
Didn't ring any bells. But I've often seen him, as the way I look at him, as a kind of unknown war orphan.
Yeah.
I really do. Every day, all around the world, every day there are hundreds, if not thousands, of children, you know, visited by war. And I see Henry Henri Digger standing for them. I really do. And it's a story that's stuck. Of all the books I've written, this is the story that's really stayed with me.
Yeah, I was going to say, this first draft of book was published in 2004, with more than 20 years ago. Of course, like you mentioned, we still don't know more about him. And do you hope, first of all, do you hope that one day we will find out more about him, or part of the mythology is the fact, or the mystique is that the fact that we actually not too sure about this?
I think that is the position I take. Look, for his sake, I hope they do find out who he is, but For my sake, as a novelist, I hope he always remains a mystery. Mm-hmm. But it's a wonderful story. I think it's the father in me that appealed, you know, to people. Out of the horrors of the Great War, this terrible death and tragedy and destruction, out of it came this little story, this story of love and hope, you know, and redemption to give, you know, another chance. What do you think you're doing?
Yeah.
They were met by a clergyman on the way home, an Australian clergyman. What do you think you're doing? I think I'm giving him another chance.
Yeah, absolutely.
And here at SBS,
the French program, at least, we'd love to be your companion in this because it's a, like I say, it's a fantastic friendship story about our two countries, France and Australia. It ties it up together in a way.
Well, I've just finished the second draft of a dramatization of the story. It may be a play, it may be a film. I'd love to see it as a film.
It would be. I mean, it's almost a film story, right?
Several times people have taken out the film option for the story, but nothing's ever come of it. And I thought, I'm going to have a go at it myself. I've already done a dramatisation of the companion book. It's called Soldier Boy, about the youngest Australian Anzac, which we remember particularly today around Anzac time. He was only 14, this boy. Jim Martin said he was 18 and went to Gallipoli and lasted 7 weeks. He died of disease. And the play is about that. Digger is a companion book. It's about the end of the war and out of the ashes of war, hope coming, you know, and coming back. It's in France. It's on the Western Front. The first one's in Gallipoli. This is France. It's coming home and it's finding hope out of it all rather than death.
What's interesting in Henri or Honoré's story is out of the whole drama that was happening around him, he lost his whole family. He lost who he was. He was able to reinvent himself and he had a lot of chance on the way. He found the right person in the Australian Corp. He was on a boat and the governor of Queensland was there and able to let him in. So there were a lot of chances on the way that made the whole thing possible as well.
A lot of good luck. The fact that the Premier of Queensland was on board, and he, when they got to Australia, rang the immigration officials and told them that they'd let Digger land with the soldiers and with Tim Tovell, that the Queensland government would guarantee to look after the boy's welfare if Tovell turned out to be unable to do so.
Mm-hmm.
He gave those guarantees. It's a very generous thing to do. Mind you, Digger was not the only young war orphan to be brought home. There were several others as well. He wasn't the only one, but the only one we really know about and whose story is so very touching. There was one who I think French as well, he came home and back to Australia and lived at Broken Hill for quite a long time. He died in 1950 or thereabouts, I believe.
Okay. What do we know about Tim Tovell? Because out of his great heart, he gave a home and a place for Henri. He lost a son or a daughter, if I remember well, in your book.
On the very day he wrote back from Germany to his wife to say he was going to bring the boy home. And we'll raise him as one of our own. One more in the family won't matter, he said. On that very day, his own son died of infantile paralysis. So when they got home, the family was just the same size. It's just that one of them was different. Mm-hmm. When they got home, a son and a daughter. And I think that's one of the reasons that Henry, as they called him, came to Melbourne. The family was getting a bit too big for him to support. But Tovell was an Englishman. They'd come out to Australia just before the First World War. When the book came out, a lot of wonderful things have happened, you know, since it came out. When the first came out, the RAAF Association in Melbourne, together with the Veterans Department in Canberra, they restored Henry's grave. The grave, Digger's grave, had fallen into great disrepair. The statue of the little war from above it had been stolen. The gravestone was broken. It was really bad state. They made a whole new gravestone for him, a new grave. And the original gravestone now stands outside the headquarters, number 4 squadron, up at Williamtown near Newcastle. It was 4 squadron that they came, the ones who made him their mascot. They've really taken Digger's story to their heart. They really have, as their this first little mascot. There are photos of him there at the headquarters at Williamtown. Also, they now, every year, they award what they call the Tim Tovell Shield for the soldier or the airman in the squadron who best displays those qualities of compassion and loyalty and devotion to duty that Tovell showed by bringing this boy back, giving him another chance at life, even if at the end fate would not be denied. Yeah. He gave him 10 more years, you know.
Yeah, absolutely. If you had one request or word or something you could talk to the French ambassador or the French authorities, how can they help?
Well, the way they can help really is to see if they really can find who the boy is. I have a friend we met as a result of this book. She lives in Ypres in Belgium, and she has French, Flemish and Dutch. She's been trying for many years to find through the record someone who may answer to Henri's description, Henri's description, or Honoré's description. We don't know. And but so far, Annie has had no success at all. If anyone in the embassy has contacts in France or with the department at Lille, they may be able to see if anything arises at all. It'd be wonderful if they could. Wonderful for Henri and wonderful for his family, actually.
Yeah, absolutely.
If they could find out who he really is. He deserves that. We all need our real identity.
Yeah.
I think that's where they could help. Annie de Decker, she lives in Ypres, as I say, and she has been trying to, but so far has had no success in it. But I really do hope that something one day will come of it. It's one of these stories that doesn't end. You know, all the time something new is happening and developing it. It's with the Air Force, with the grave, you know what I mean? People still looking.
Mm-hmm.
And there are several people in France, I believe, are still sort of interested in trying to follow the trail, but at the moment nothing further has come.
If we want to read more about it or read about it, can you? Where is your book available? Where is your books? Where are they available?
It's still in print, Digger. It's called Young Digger. It's published by Penguin Random House. You can contact them. It's certainly available as an ebook, I know, but it's also in print. You can purchase it. Bookshops should be able to order it. I have copies myself here if they got onto my website. I have copies here, and but it's available as an ebook as well, and through Penguin, Penguin Random House.
Okay, thank you, Anthony. It's like I said. It's I don't praise always on anything, but this book is fascinating. The story is fascinating, and this is the reason why 20 years after you published that book, you and I are talking about it, because it's an absolutely fascinating story for anyone that's got to do with France or Australia. So that means a lot of people that are listening to us, you know.
And one of those bonds that are between our two countries.
Yeah, 100%. Thank you, Anthony.
Thanks, Christophe.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs, des ça. Réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
C'était Zao de Sagazan et sa chanson « La symphonie des éclairs » en ce dimanche sur SBS.
SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales.
Écoutez les dernières nouvelles à la radio, du lundi au vendredi, à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS, tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Europa Voice, deuxième partie, et on va parler bien entendu des élections qui arrivent une semaine. Les élections australiennes auront lieu le 3 mai 2025. Et on n'en sait pas beaucoup plus, ça se départage pas vraiment. Il y a malgré trois débats, je crois qu'il y a eu télévisuel. Ça se départage pas tellement, on est toujours un peu scindé au milieu quand même.
Alors on a des tendances quand même, Christophe. C'est,
on sent que c'est un peu dur pour Dutton.
Voilà,
ça devient, pédale un peu dans la semoule quand même.
Ça devient dur, de plus en plus dur pour Dutton et la coalition. Et on est plutôt sur une pente positive. Pour Albanese et les travaillistes.
Donc aujourd'hui, juste pour interrompre, vous êtes Anthony Albanese, il vous reste une semaine de campagne. Est-ce que vous êtes communicant, hein, c'est votre métier, Nathaniel. Est-ce que le message, c'est on fait pas de vague? On la surfe et on fait pas de vague.
Alors je ma casquette effectivement de communicant, je pense qu'on fait le strict minimum. Il faut pas non plus rien faire. Il y a trois scénarios. Il y a vous en faites trop. Si vous en faites trop, vous êtes Albanese, vous êtes en tête des sondages, vous êtes aussi ce qu'on appelle un incumbent, c'est-à-dire que vous avez été en poste, c'est toujours plus facile, hein, puisque vous avez pu marquer de votre empreinte pendant 3, 4 ans, etc. Si vous en faites trop, c'est le risque aussi d'aller sur des terrains de communication, des terrains politiques qu'on va vous reprocher et vous n'avez aucun intérêt à occuper trop l'espace. Vous ne faites rien. C'est aussi un travers dans lequel Albanese ne peut pas tomber pendant cette dernière semaine. Parce que si vous ne faites rien, vous avez l'opposition, la coalition d'automne qui va, ce qu'on appelle, préempter tous les sujets qui peuvent lui être bénéfiques. Je pense notamment à la sécurité, à l'économie, au taux d'intérêt, etc. Donc, ne rien faire, c'est aussi prendre le risque que quelqu'un d'autre occupe votre place. On est encore dans le en même temps. En tout cas, on est dans le milieu. C'est-à-dire qu'il faut faire le strict... Quand je dis il faut faire, c'est je mets dans les baskets d'Anthony Albanese, il faut faire le strict minimum.
Mais il écoute, hein, il y a pas de.
Je sais très bien, Albanese est le premier auditeur de Europa Voice en français. C'est vers le strict minimum pour assurer en fait cette avance, parce que le Labour a quand même de l'avance sur Dutton et surtout avec les reports de voix et les préférences, a toujours cette avance pour le deuxième tour. Là, ce qui est assez malin, c'est que Dutton a tapé très fort et pendant très longtemps sur l'inconsistance du Labour à s'associer avec les Verts, mm-hmm. en reprochant aux Verts leur extrémisme, etc. Et donc que le Labour, voter Labour, finalement, c'est voter pour les Greens. Et si vous regardez un petit peu les journaux, Christophe, et si les auditeurs d'Europa Voice d'SBS regardent un peu les journaux, c'est difficile de savoir quelle est la position officielle du Labour sur cette question-là. Il y a un peu du cas par cas. Et donc, si c'est difficile de la voir pour nous, auditeurs, lecteurs, téléspectateurs, etc., c'est aussi difficile pour Dutton de le critiquer. Parce que vous avez certains candidats qui sont en totale rupture, vous avez d'autres candidats qui, pour le coup, donnent directement leurs préférences et l'affichent complètement, en parlent publiquement. Donc, en fait, Dutton, là où je trouve qu'il a perdu beaucoup d'avance, c'est qu'il a mis beaucoup d'efforts à critiquer les alliances politiques des travaillistes avec les Verts et que ça ne lui, pour moi en tout cas à l'heure actuelle, pas porté bénéfice du tout.
Ouais, absolument. Et ça, c'est quelque chose qui peut changer dans la dernière semaine. Est-ce que il garde cette carte pour essayer d'éclaircir la question et d'éclaircir le sujet sur la dernière semaine, ou encore une fois faut rester un petit peu évasif et que pour l'instant ça se passe pas trop mal, donc du coup on reste un peu comme ça quand on est Labour?
Il y a trois éléments. C'est d'abord, en fait, il y a déjà beaucoup de gens qui ont voté. À l'heure où on se parle, il y a déjà donc Anzac Day, il y a plus d'un million d'Australiens qui ont déjà voté, puisque en Australie, rappelons-le pour nos auditeurs peut-être moins habitués avec le système électoral ici, on peut voter plus tôt.
Déjà, le vote est obligatoire, voilà. Donc du coup, il y a des arrangements qui sont trouvés.
Il y a des arrangements qui sont trouvés. On peut voter plus tôt dans des bureaux de vote. Donc déjà, il y a une partie de la population qui n'est plus à convaincre puisqu'elle a déjà voté. Le deuxième élément pour les travaillistes, qui à mon avis leur bénéficie, c'est qu'on est aussi, et ça d'ailleurs il l'avait fait exprès Albanese au moment où il a déclaré ces élections-là, il les a déclarées grosso modo avant les vacances de Pâques, avant les vacances scolaires de Pâques, et puis là on est dans la fin du long, enfin on est dans le début et la fin de cette période de vacances, d'un long week-end. Donc en fait, en vrai, en termes d'intérêt des Australiens pour la politique, pour la campagne, il va rester 5 jours en début de semaine prochaine. La seule chose qui puisse arriver, et on n'est jamais à l'abri de ça, c'est un gros événement qui chamboule un peu tout l'agenda. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une déclaration de la Banque centrale, ça peut être un événement exogène qui dérange un peu l'ordre établi. Mais c'est quand même très improbable. Donc, la question là pour Dutton et les libéraux, c'est vraiment, pour moi, encore une fois, de prendre un ou deux sujets qui sont peut-être les plus rassembleurs ou qui peuvent parler au plus grand nombre de leur, de leur électorat à la coalition. Et j'insiste bien, à l'heure actuelle de la campagne, il n'est plus question pour la coalition, c'est totalement inopérant, d'essayer de convaincre ceux qui ne votent pas d'habitude la coalition, qui ne votent pas libéral. Là, la question pour Dutton, c'est de motiver, de mobiliser ceux qui sont susceptibles de voter libéral ou ceux qui hésitent pour qu'ils aillent voter.
Est-ce que c'est donc du coup cette fameuse alliance avec le One Nation qui a quand même fait couler beaucoup d'encre, hein, c'était quelque chose qui était impensable il y a quelques années. Aujourd'hui, cette alliance elle a l'air de se dessiner. Est-ce que ça va dans cette mouvance de dire ok, si vous êtes en train d'hésiter et que le One Nation peut-être peut vous intéresser, bah, votez directement avec nous ou alors faites ces alliances avec ces fameux reports de voix.
La question aussi, la spécificité de ces élections fédérales là, Christophe, c'est que le leader de la coalition n'est pas un leader libéral en fait. Dutton est de l'autre partie de cette coalition. Donc en fait, il y a quand même une frange de ceux qui sont insatisfaits par les politiques des travaillistes qui ne se sentent pas encore de voter pour la coalition parce qu'elle n'est pas menée par un libéral ou par un moderne libéral. Elle est menée, et ça c'est un choix tactique qu'a fait la coalition, par Peter Dutton, qui est plutôt sur les franges à droite de cette coalition. Donc la question, c'est de l'assumer, mais c'est quoi les deux sujets? Et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'il est en train de faire, hein, Dutton. Il parle énormément de migration, il parle énormément de couper le nombre de visas, même le nombre de visas de backpackers, etc. Il parle énormément de migration et il parle de sécurité. En fait, il a pris les deux thèmes sur lesquels il peut le plus et couper l'herbe sous le pied de Albanese. Il a essayé d'aller un peu sur le terrain économique, mais pour l'instant, ce terrain-là lui a pas trop réussi. Donc pour moi, la question, c'est vraiment, maintenant, il reste 5 jours de campagne, enfin un peu plus, mais c'est le long week-end encore une fois. C'est quoi les deux sujets qui pourraient faire pencher les hésitants ou ceux qui, tout simplement, pourraient ne pas se reporter sur la coalition directement? Je pense à ceux qui voteraient. Alors, il n'y en a pas énormément, mais on va mentionner ce parti parce que le nom est rigolo et ridicule, les Trumpets for Patriots. Il faut aussi que les reports de voix marchent, mais ces reports de voix, ils peuvent marcher pour ce parti-là, ils peuvent marcher pour un parti indépendant. Vous pouvez voter indépendant en premier, puis après vous reporter sur les libéraux. Donc c'est vraiment pour moi cette question-là de Dutton. C'est à la fois mobiliser cet électorat encore un peu hésitant et prendre les deux thèmes qui font que ça pourra faire pencher la balance. Ce qui est aussi très peu probable, Christophe, d'arriver au vu de la violence politique de la campagne de la coalition, c'est un gouvernement de minorité emporté par la coalition qui nécessiterait une alliance avec les indépendants. Je ne vois absolument pas les Teals, au vu de la violence proférée à leur égard par la coalition, accepter d'être dans un gouvernement avec la coalition. Donc ça, c'est aussi un choix assez drastique qu'a fait la coalition, de taper fort dessus. Mais alors, s'ils tapent fort dessus, ça veut dire qu'il leur faut une majorité. Et au vu des sondages, ça a l'air compliqué pour Dutton d'y arriver.
Allez, j'ai une dernière question, avant de conclure cette Europa Voice. Est-ce qu'on peut avoir une surprise? C'est des élections, on peut toujours avoir une surprise. Ça s'est déjà passé en Australie. Je repense au cas Morrison qui, tous les sondages le donnaient perdant. Il a eu la plus grosse victoire qu'il ait jamais eue quand il a été réélu sur son dernier mandat. Est-ce que la surprise est possible?
Alors, je dirais qu'il y a 4 scénarios. Il y a victoire avec une majorité travailliste. Premier scénario, victoire avec une majorité de la coalition. Deuxième scénario, à mon avis, c'est scénario 1 et 2. Ils n'arriveront pas, ni les travaillistes.
Il n'y aura pas de victoire majoritaire totale de l'un ou de l'autre.
Les deux autres scénarios, c'est gouvernement de minorité pour la coalition. Comme on l'a dit, ça va être compliqué justement de faire cette coalition pour Peter Dutton. La surprise, à mon avis, qu'il peut avoir, mais qui n'est pas la meilleure solution pour l'Australie, c'est que même les travaillistes, qui est le scénario pour moi le plus probable, c'est-à-dire gouvernement travailliste, mais nécessitant une coalition avec les indépendants et les Verts, c'est qu'il n'y arrive pas. Et donc, on se retrouvait dans un hung parliament il n'y a aucune majorité parce qu'aucune coalition n'a été formée. Pour moi, c'est, je ne sais pas si on va appeler ça une surprise, en tout cas, ce n'est pas une très bonne surprise, mais j'ai l'impression que c'est un scénario qui est, n'a jamais été autant probable. C'est d'avoir une belgicisation de l'Australie. Et alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir des coalitions complètement contre nature? J'en sais rien. Personne ne sait à ce moment-là, mais pour moi, c'est peut-être la surprise, on va dire, ou l'élément qui pourrait arriver, qui pourrait faire peur d'ailleurs à la fois aux citoyens et au paysage politique australien.
Parce que c'est en fait possible de pas avoir le résultat le 3 mai.
Ah oui,
on vote le 3 mai, c'est totalement possible que le 3 mai, on ne sache pas qui a gagné.
Non, c'est totalement possible, effectivement. Ouais.
Absolument, ça donnera de l'encre
à notre stylo à plume.
À notre stylo à plume. Merci Nathanaël pour cette Europa Voice.
Merci Christophe.
Naman avec sa chanson Karma en ce dimanche sur Radio SBS. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
En ce mois d'avril, la sélection cinématographique francophone est très très riche. La liste complète des films est à retrouver sur notre site internet SBS French. Un film qui dérange sur une histoire interdite, Les algues vertes de Pierre Jolivet. Un film sous forme d'enquête qui examine les conséquences environnementales et sanitaires des marées vertes en Bretagne causées par la prolifération des algues vertes. Le film met en lumière les impacts sur les communautés locales, les agriculteurs et les écosystèmes, tout en explorant les responsabilités politique et industrielle derrière ce phénomène.
Vous voulez bien me raconter ce qui s'est passé?
Oui. D'après ce qu'on sait, Thierry va quitter l'entreprise vers 8 heures.
Il va charrier des tonnes de boues d'algues vertes en putréfaction, dégageant de l'H2S, l'un des gaz les plus dangereux du monde.
Et on est allé reconnaître le corps avec la gamine.
Mon fils, il était tout noir.
Ils ont dit que c'était une mort naturelle.
Mais l'enquête continue, non?
C'est aux autorités de décider si une enquête continue ou s'arrête, Madame Leroux.
Bonjour, je suis journaliste et je fais des reportages sur la Bretagne. Je vous appelle au sujet des algues vertes.
Et c'est à cause de l'agriculture, c'est ça?
C'est ce que je voudrais savoir.
Je suis désolée, mais ça va pas être possible.
Ils font tout pour pas me parler.
Dès que tu t'approches des algues vertes, ça pue dans tous les sens du terme. Je pense même que ça peut être dangereux.
Vous abusez pas à foutre par terre notre belle région.
Si je tombe mal...
Et tu tomberas toujours mal.
Lâchez la remarque que vous faites.
Vous êtes comme qui dirait la femme à abattre.
Vous savez, tout le monde a peur dans cette affaire.
Il faut comprendre qu'ici, chaque famille a quelqu'un qui travaille dans l'agro.
Vous, la FNSEA, c'est vous qui choisissez les ministres de l'Agriculture?
C'est pour ça que les agriculteurs nous élisent.
Vous savez ce que c'est, la vraie violence?
C'est le prix du lait. 30 centimes le litre, depuis 30 ans.
Des reportages, ils font trop de remous.
Les écolos vont encore nous faire chier.
Les autorités mentent et jouent avec la vie des gens?
Faites attention à vous, quand même.
Nous sommes en guerre, Madame Leroux. C'est une vraie et grande guerre économique.
Il faut que vous soyez vigilants un jour ou l'autre. Vous les aurez face à face, les yeux dans les yeux, les victimes de votre guerre.
Les algues vertes, c'est l'adaptation de la bande dessinée d'Inès Leroux et Pierre Van Hove, tirée de l'enquête menée par Inès Leroux sur le scandale des algues vertes, donc. Autre film qui interpelle également, cette fois sur notre rapport à l'information, son titre c'est Vivant, On the Pulse en anglais, avec Alice Isaz et Roche Dizem, l'histoire très actuelle de journalistes de terrain confrontés aux nouveaux canaux d'information, à la réduction constante des budgets et à un métier qui change. Mais malgré les obstacles et les défis, un seul objectif, faire de l'image, faire du reportage.
Je suis désolée, on part en tournage là. J'ai dit ok pour te rencontrer, mais j'ai rien promis. Tout le monde veut bosser avec nous, hein. C'est quoi ton truc? Je sais réparer une caméra.
Ça, on a des gens pour ça, hein.
Allez.
Vincent, le rédacteur en chef de l'émission.
Merci.
Je suis chaud, là.
Bon, on y va?
Parle avec toi.
Patrick!
Ah, mais vous vous débrouillez, vous passez, hein. Vous rentrez pas sans rien.
Ok, on va se démerder.
Je peux filmer si tu veux, j'ai la caméra de secours.
L'émission, elle est pas que sur la police?
Non. Qu'est-ce que vous faites? Je pouvais pas savoir.
Tu fermes ta gueule.
Un truc à faire, c'est le matos. Concentre-toi là-dessus, putain de merde.
Ok. On recommence un peu plus vite.
Une attaque à Bangui. Mais là, il y a 128 morts.
Un gilet pare-balles?
L'international, ça marche plus. On a besoin de rêver, c'est comme ça.
Les trois quarts de la planète sont en train de crever, lui, il nous manque du rêve.
Qu'est-ce qui se passe?
Damien s'est fait shooter.
Je le cherchais.
Je suis contente de te voir.
C'est là qui s'est pris la balle.
Et il a des images? C'est la chaîne qui me demande.
Tu crois qu'on peut le diffuser?
Les gens veulent plus voir la mort.
Ouvre l'œil. Imagine que t'as un lion qui passe à côté de toi, et ben, tu le vois.
Tu te fais bouffer quand même.
Oui, mais au moins t'as l'image.
On est en train de sauver des vies, là, donc.
Et vous en faites quoi après? Vous les mangez?
3 heures à tout dérocher pour vous entendre rigoler comme des cons.
Vous bossez pour un groupe. Quand est-ce que vous allez comprendre ça?
J'ai pas fait tout ça pour filmer les défilés, ça me casse les couilles de faire ça, en fait.
Elle est où, la petite?
Essaye d'aller à l'essentiel. Fais comme si t'avais qu'une seule question. Vous voulez vraiment vous accrocher à une émission qui a plus de 15 ans?
C'est notre taf, hein. On filme.
Alix Delaporte signe là un hommage poignant au courage et à la détermination des journalistes qui cherchent à révéler la vérité malgré les dangers. Dans la catégorie des films francophones non français, il y a Hunting Days, Jour de chasse en VF, un thriller québécois de 2004 où une jeune femme est recueillie par un groupe d'amis partis en expédition de chasse. Mais les tensions montent et des secrets enfouis refont surface, mettant le groupe à l'épreuve. Toujours au Canada, le film Falcon Lake est le premier long métrage de Charlotte Lebon, un teen movie d'amour et de fantômes, adaptation libre du roman graphique Une sœur de Bastien Vivès. Il y a aussi Mambar Pierrette, un film belgo-camerounais réalisé l'année dernière par Rosine Mfetgo Mbakam. L'histoire d'une couturière confrontée à des défis personnels et professionnels tout en essayant de subvenir aux besoins de sa famille. Un long métrage qui reprend les codes du documentaire d'une profonde humanité et qui montre la bravoure d'une mère courage. Et enfin, un autre film qui se déroule en Afrique, Augure, ça s'appelle Omen en anglais, le premier film de l'artiste Baloji qui passe de la musique à la mise en scène, l'histoire de Kofi qui, après 15 ans d'absence, revient au Congo avec sa femme, Blanche, enceinte. Sauf que Kofi est considéré comme un sorcier par les siens. Augure, c'est un film onirique sur la quête d'identité, le choc des cultures, des traditions et de la modernité, primé lors du Festival de Cannes. Voilà, messieurs, dames, pour notre sélection des sorties séries et cinéma du mois d'avril sur SBS On Demand. Mais bien sûr, certains contenus des mois passés sont toujours disponibles. Si vous ne l'avez pas déjà fait, foncez retrouver la sélection du mois dernier. L'épisode En Mars sur SBS On Demand est disponible sur notre site internet ainsi que sur toutes les plateformes. Et les films et séries dont on y parle, tout est accessible gratuitement, on le répète, sur la plateforme SBS On Demand. Et ce, pendant encore plusieurs mois. Vous avez le temps, mais il y a tellement de contenu, on voudrait ne pas en rater une miette. Alors régalez-vous, messieurs, dames. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point sur les contenus francophones à retrouver sur SBS On Demand. Bon visionnage et à très bientôt.
le bon son des années 80, Indochine avec Troisième Sexe sur SBS. Voilà, c'est tout pour notre émission ce dimanche. Merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un très bon après-midi à tous. Je vous rappelle également que toutes nos émissions et tous nos podcasts sont disponibles sur notre site internet sbs.com.au/french. Et bien entendu, je vous rappelle également tous nos films disponibles, les films en français disponibles sur la plateforme d'SBS On Demand, sbs.com.au/on-demand. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. À mardi.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.